Voilà, de retour sur l'antenne où je vais passer le relais alors. Attention, je lance le chrono. C'est bon, vas-y, à toi alors.
Bonjour à tous, oh là là, c'est chronométré. Compliqué, hein. Bonjour à tous, alors bougez pas, j'installe mon casque. Voilà. Est-ce que vos micros fonctionnent? Je trouve que c'est un bon début. Pose là.
Oui.
Parfait.
Salut. Omni.
Oui. Pog.
Bonjour.
Parfait. Et on a tout le monde. Bienvenue à cette interview Radio Retour de Bulle. Nous avons donc aujourd'hui des auteurs que je suis très contente de rencontrer, puisque trois auteurs, de deux bandes dessinées qui font partie du prix Tour d'Ivoire des Mômes. Nous avons donc, je commence dans l'ordre pour pas qu'il y ait de jaloux, Pozla qui est donc l'auteur illustrateur de L'homme qui courait après sa chance. Voilà,
oui,
tu confirmes, c'est bien
oui,
toi.
C'est bien
super.
Moi.
Super. Oui. On n'a pas eu un échange d'auteurs entre temps. Très bien.
C'est bon.
Et donc Moonly et Pog qui sont respectivement illustratrices et auteurs de Zoya tome 1 que le grand cric me croque.
C'est ça.
Alors, je rappelle un peu l'histoire rapido de vos deux œuvres, et puis après, on va discuter un petit peu de tout ce travail de création. L'homme qui court après sa chance, on est sur, on va dire, une fable, conte, quête initiatique, l'histoire d'un homme qui, visiblement, a raté sa chance, n'a vraiment pas la chance de son côté, et qui va essayer de se dire, on y va, on va essayer de trouver une solution. Et on va essayer de gravir cette montagne apparemment à la recherche d'un grand sage qui aurait la solution à tous ces maux. C'est bien ça, je résume?
C'est ça.
Ça va? Ouais, j'ai bien expliqué.
C'est un bon pitch.
Et puis Zoya, que le grand cric me croque. Alors plutôt là où on a beaucoup d'humour dans la BD de Pozla, on est sur quelque chose d'un petit peu plus dramatique. On est sur une bande dessinée qui raconte l'histoire donc de Pia et Miette, deux sœurs... orpheline qui se retrouve dans un orphelinat plutôt problématique où on exploite énormément les enfants, qui vont rencontrer le personnage de Gabin, si je dis pas de bêtises, personnage qui va étonnamment leur permettre de s'enfuir de cet orphelinat et où une mystérieuse créature a l'air de vivre dans les sous-sols. Et ce personnage étonnamment, c'est Zoya, celui qui donne le nom. Voilà. Ah, j'ai spoilé ? Oh, on le sait vite ?
Oui.
Ouais, on le sait vite. Alors, il y a de fortes chances qu'on spoil quelques petites choses dans l'histoire aujourd'hui, dans les histoires globales. C'est vrai que j'aurais pu... C'est bien, je commence bien mon émission. Bon, deux histoires jeunesse, donc. Et alors, moi, ce que je voulais vous mettre en avant, c'est que j'avais remarqué que, étonnamment, dans vos deux récits, je trouve qu'il y a énormément d'éléments empruntés au conte, en fait. Des deux côtés, puisque autant chez toi, Pozla, on a énormément d'animaux, d'arbres, de pierres qui parlent. On a la malchance, mais qui est finalement presque un petit peu une forme d'entité magique, ou en tout cas quelque chose d'assez présent. La quête initiatique, bien sûr. L'intemporalité aussi, beaucoup de ton œuvre. Et de même que dans Zoya, on est sur des monstres, on est sur de la magie. Là, pour le coup, c'est relativement assumé, hein, je crois. Et on est sur cette fuite dans une forêt qui est plutôt inquiétante, assez anxieuse. Pareil, intemporalité aussi de votre côté. Je voulais vous demander si vous étiez déjà d'accord avec moi, je trouve, cette appartenance au conte de votre œuvre. Vous avez le droit de dire que non. Et si oui, est-ce que c'est recherché assumé ou alors est-ce que c'était complètement instinctif, pas prévu?
Alors, concernant L'homme qui courait après sa chance, oui, tu tapes juste dans le sens où c'est l'adaptation d'un conte populaire.
Ouais.
Donc, okay. Enfant, j'ai beaucoup baigné dans le conte, j'ai énormément entendu de contes, ma mère est conteuse. Mm. Et quand on m'a proposé de faire un bouquin jeunesse, il y a tout de suite ce conte, moi, qui m'a suivi toute ma vie, qui est remonté à la surface, et que j'ai eu envie d'adapter en bande dessinée. Donc après, j'ai vraiment fait, par contre, le travail que peut faire un conteur, c'est-à-dire à partir de différentes versions du conte, parce que c'est un conte qui existe, j'en ai trouvé 3 ou 4 versions. J'ai repris toute la structure du conte, vraiment le noyau du conte, et j'y ai mis mes images, mes dialogues, mes décors, mon univers, et on est sorti cette petite BD, quoi. Ouais, donc c'est complètement assumé, c'est vraiment un conte populaire traduit en BD avec à ma sauce, quoi.
Ça marche. Et pour Zoya?
Oui aussi, c'est vrai qu'il y a une influence des contes. Alors nous, c'est un récit fantastique.
Avant tout.
Voilà, ouais. Matinée un peu de steampunk. Mmh. Donc c'est vrai qu'on peut penser à plusieurs contes avec les personnages de Baba Yaga, donc les enfants dans la forêt, la sorcière, c'est des éléments qu'on retrouve. Voilà. Ouais. Mais après, il y a aussi, je pense, plusieurs classiques. Moi, j'ai vu beaucoup de films donc, ouais, qui sont aussi en littérature, bien sûr, mais des David Copperfield, Oliver Twist, ou même Frankenstein avec sa créature.
Ouais, on le sent un petit peu.
Voilà, toutes ces influences qui se mélangent, je pense.
Molly aussi, tu trouves, même dans les dessins que tu as choisis, toi, tu as des inspirations beaucoup ouais. là-dessus, ouais.
Ah oui, moi c'est sûr que tout ce qui... En fait, en faisant Zoya, je me suis pas mal inspirée Enfin, j'ai essayé, à ma hauteur, j'ai essayé de m'inspirer un peu des illustrations, notamment des premières illustrations des contes russes qui ont été éditées en France,
ouais.
Avec voilà, des illustrateurs qui font des...
N'hésite pas à bien coller ton micro.
Pardon,
c'est pas grave.
En plus, j'ai une petite voix.
Oui, c'est ça.
Ouais, j'ai essayé de m'inspirer au mieux de certains illustrateurs de contes russes, les premiers contes russes des Baba Yaga, ouais. etc., mmh. édités en France, que j'adore, qui sont des super belles illustrations. Mmh. Donc, j'ai essayé de mettre un peu de ça, un peu de référence aussi du dessin animé. Alors, c'est pas du conte directement, mais tous les dessins animés qui ont pu m'inspirer sont eux-mêmes inspirés de contes.
Ouais. Ok. Alors justement, je rebondis sur ce fameux personnage de sorcière dont vous parliez, parce que c'est vrai que moi j'ai trouvé vachement intéressant cette sorcière scientifique quand même, hein, on le sait pour le coup, on le sait assez rapidement, et je trouve que justement au-delà du fait que vous avez des éléments des deux côtés très liés au conte, il y a beaucoup de détournements aussi, ou en tout cas voilà, de mélanges, comme tu disais tout à l'heure avec du fantastique, du steampunk. Moi j'aimais beaucoup cette espèce de contexte réaliste avec cette magie mêlée à la science, d'ailleurs il y a cette réplique que moi j'ai beaucoup aimée, qui dit, c'est le gamin qui dit à Baba, cette potion c'est de la magie ou de la science? Elle répond, la science c'est juste de la magie avec des preuves. Et j'aime bien cette phrase, je trouve qu'elle est intéressante. Je voulais savoir pourquoi vous aviez eu envie de cette sorcière scientifique, peut-être surtout toi Pog. Est-ce que tu avais envie de renouveler l'image? Est-ce que c'était juste
oui, c'est
pour
ça.
La suite peut-être
en
aussi
fait, c'est pour la suite évidemment.
Ouais, ouais.
Et puis après, c'est vrai que c'est toujours bien de prendre un personnage très codé en fait dans le conte. Voilà, la sorcière méchante dans sa cabane au fond des bois, et de surprendre le lecteur en fait. Ben, en fait, elle est pas méchante. Mmh. Elle a des motivations qu'on va découvrir petit à petit. Et puis voilà.
Même le méchant entre guillemets de l'histoire a aussi des
assez
motivations. C'est ce qui est moi ce que j'ai trouvé intéressant la première fois que j'ai lu le scénario. D'avoir vraiment des explications, à pas avoir des méchants qui agissent gratuitement.
Ouais, d'avoir quelque chose, enfin, oui, un contexte.
Un peu de profondeur, voilà.
Mais je pense qu'un bon méchant, c'est un méchant qu'on a envie d'aimer ou qu'on pardonne. Mm. Enfin, parce qu'il a une vraie motivation et que sa logique peut se comprendre.
Ouais.
Et donc, c'est à partir de ce moment-là, effectivement, quand on a un méchant comme ça dans un film, dans un jeu, dans une BD,
dans plein d'autres œuvres culturelles,
c'est riche parce que du coup, on peut se dire, et en fait, si c'était lui le gentil, puis les gentils pour être les méchants dans un autre... Voilà, si on racontait l'histoire autrement, ça pourrait donner autre chose encore.
Puis peut-être d'avoir un petit peu d'empathie pour ces personnages,
voilà,
de se mettre finalement quand même à leur place.
Oui.
Et pour le coup, pour le personnage de Baba, et d'ailleurs le personnage aussi d'Ilborn, qui est un peu l'étrange directeur de cet orphelinat, c'est vraiment les personnages que j'aime beaucoup dessiner, et j'avais vraiment envie de dessiner Baba sur la fin de l'album. Donc elle apparaît moins que certains autres personnages, donc j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir la dessiner davantage. Mais c'est vraiment un personnage qui me tient à cœur. Mmh.
Je comprends. Et alors du coup, pour rebondir sur le côté détournement, toi Pozla, on peut parler, je pense, de détournement humoristique. Au-delà effectivement de la trame narrative qui est très, très, je trouve, enfin tu l'as expliqué, hein, à base d'un conte populaire, ta touche à toi, pour moi en tout cas, c'est l'humour, c'est ces dialogues francs, familiers, ancrés dans le réel, qui contrastent finalement beaucoup avec le fantastique de l'univers. L'image pareil de l'introduction de ta BD où on a un escargot qui dit salut les copains dès les premiers mots. Pourquoi t'as fait ce choix-là, du coup?
Alors.
Enfin, est-ce que pour toi c'était une façon de détourner ou plutôt...
Alors, bah, disons que c'est une façon de... Moi c'est un peu ma manière de faire du dialogue, de faire des histoires, de communiquer. Donc pour moi c'est assez naturel de venir poser des petits dialogues qui vont amener un petit sourire ou qui vont amener un petit côté loufoque ou burlesque. Voilà, je me retrouve carrément là-dedans et j'aime bien avoir, parce qu'on a quand même une trame pseudo-philosophique qui fait réfléchir sur, sur les choix dans la vie, sur la place de la chance, des événements qui arrivent, qu'on sait saisir ou pas. Et en fait, mettre un vernis d'humour là-dessus et de loufoque, ça fait passer la chose. Le message passe d'autant mieux, en fait. Ouais. Voilà. Et puis moi, c'est ce qui me fait marrer, c'est ce qui me fait prendre du plaisir à l'ouvrage, quoi. Donc, et voilà, je trouve que l'humour, c'est un super moyen de faire passer des choses sérieuses. Et notamment pour les enfants.
Oui, c'était aussi ce choix peut-être pour le public que tu visais derrière. Alors justement, c'est un peu rigolo parce que c'était une de mes questions à la suite. On est finalement de vos deux côtés sur des thématiques relativement, alors je ne vais pas aller jusqu'à dramatique, mais en tout cas des choses assez sérieuses. Et pourtant, vous avez choisi de parler pour un public jeunesse. Est-ce que vous vous êtes tout de suite dit que ce serait pour de la jeunesse? Est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure de votre création? Est-ce que vous reprenez un peu la genèse de tout ça? Est-ce que c'était voulu dès le départ?
En même temps, si je peux me permettre, les enfants aiment bien ces trucs-là. Ils aiment bien se faire peur. C'est tout le truc des contes aussi.
Complètement.
D'aller toucher à quelque chose, pas d'interdit, mais un petit peu. Voilà,
en tout cas, qui fait peur.
Ce monde des adultes qui fait un peu peur, c'est important pour les enfants.
Complètement.
Oui, puis je pense qu'il ne faut pas prendre les enfants pour des cons. Ils ont le droit d'avoir des histoires un peu. Profonde et sérieuse entre guillemets sur les thématiques. Et puis il y a différents niveaux de lecture aussi sur ce genre d'histoire, donc ça permet selon l'âge de l'enfant de capter certaines choses de l'histoire, et plus il grandit ou plus il est âgé, plus il capte d'autres subtilités de l'histoire. Donc moi c'est clair que cette histoire je voulais l'adresser aux enfants, enfin, je voulais en faire un bouquin jeunesse ou en tout cas tout public, parce que je pense qu'un lecteur adulte peut se retrouver dans cette histoire malgré tout, sans trop s'embêter, quoi. Voilà.
Je confirme, mais pour le coup on a eu énormément de retours, je précise là plutôt avec mon rôle de animatrice pour la Tour d'Ivoire des Mômes, c'est vrai qu'on a eu énormément d'enfants certes, mais aussi de parents, d'adultes qui ont adoré l'histoire, et qui souvent, même si on l'a chaque année, hein, je vous rassure, sur toutes les BD, mais particulièrement pour ton œuvre, on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit c'est dommage qu'on puisse pas voter quand même. Parce que je rappelle que c'est un prix qui est uniquement pour les moins de 13 ans, volontairement que les votes soient faits par le public jeunesse uniquement. Alors justement, je voulais vous demander, dans ces choix de thématiques assez difficiles, entre autres, on va dire dramatiques, ou en tout cas sérieuses, des deux côtés, on a des choses assez marquées. Par exemple, effectivement, pour Zoya, on est sur thématique kidnapping d'enfants, trafic d'orphelins, violence physique, émotionnelle, solitude. Est-ce que c'était quelque chose dont tu avais envie de parler particulièrement? Est-ce que c'est des choses que tu traites très souvent dans tes œuvres?
Je pense qu'il faut pas, ce qu'on disait, faut pas avoir peur d'aller vers des histoires sombres. Si on revient en compte à la base, au hasard, le petit poussé, il échange les bonnets des filles de l'ogre pour sauver ses petits frères et l'ogre tue ses filles. Le truc complètement immoral.
C'est ça.
C'est assez choquant. Donc et c'est des histoires pour enfants au final. Je pense qu'il faut pas trop s'interdire, surtout pas à l'écriture. Et puis après, évidemment, on se pose des fois des questions une fois qu'on a terminé. Le volume.
Le dessin,
puis des fois on s'auto-censure aussi, mais je pense qu'au moment de l'écriture je me pose pas ces questions, j'y vais, puis après
tu préfères te lancer,
c'est soit l'éditeur qui va me dire bon là c'est peut-être too much, et on peut en reparler, corriger, adoucir, ou au contraire foncer droit devant.
Et toi Monique, quand tu as lu le scénario justement sur ces thématiques là tu t'es dit quoi? Est-ce que c'est quelque chose où tu t'es dit bon à dessiner ça va être effrayant, intéressant, enfin.
Moi, déjà parce que oui, effectivement, au niveau du dessin, je savais que ça allait être fun, ça l'a été. Et puis moi, ça me renvoyait, comme je disais, à des choses que, en fait, l'état d'esprit dans lequel j'ai fait l'album, qui est mon premier, où je suis toute seule au dessin, donc c'est aussi voilà.
Bien sûr.
C'était c'était un peu de pression, enfin sur par rapport à ce projet-là. C'était de me dire à un moment donné, je voudrais essayer de retrouver ce que moi enfant j'aimais lire et tout de suite avec le scénario quand je l'ai lu, j'ai retrouvé les romans que je lisais à 10-11 ans, j'ai retrouvé les premières BD que je lisais aussi avec cette part de magie, cette part de un peu sombre aussi des histoires parce que enfant moi j'allais pas mal vers ça aussi. Donc
finalement
donc je me suis mise dans une position où voilà, j'ai envie de retrouver cette âme de lectrice en le faisant en même temps.
Voilà. D'accord. Et ça a aussi motivé vos choix de couleurs après avec Juliette Vasse qui était à la couleur avec toi, si je dis pas de bêtises.
Oui. Eh ben en fait, Juliette, on travaille régulièrement ensemble et on a fait la même école de dessin. Elle est aussi dessinatrice.
D'accord.
Donc on a l'habitude de travailler ensemble et j'ai pas trop de difficultés on arrive à s'entendre facilement, on se connaît bien. Donc,
Ouais, donc plutôt sur quelque chose d'assez évident pour vous deux.
C'est ça. Et au niveau de la couleur, elle a fait un travail justement d'ambiance qui, sur la séquence de fin justement de l'album qui est importante, où on parlait justement de Baba Yaga, etc. Elle a fait vraiment un travail d'ambiance. Voilà, je spoil pas, mais
pas trop
ça se sent voilà, dans les dernières pages.
Oui, elle a envie de, on va dire simplement, changer l'atmosphère. On
c'est
peut
ça.
Dire, voilà. Et ben oui, et pareil, du coup, pose-la, toi, c'est presque l'ensemble est finalement drôle, joyeux, voilà. Et sans trop en dire, on est sur une fin relativement marquante, qui change un petit peu de ton. Est-ce que, pareil, toi, est-ce que t'as hésité sur cette fin ou c'était une évidence?
Alors moi j'ai pas hésité.
Déjà t'as adapté, mais est-ce que t'aurais pu choisir de changer par exemple?
Alors mon éditeur m'a posé la question.
Ouais.
Il m'a dit t'es sûr là que... Je dis ouais non je suis sûr, oui il faut.
Il faut ce contraste.
Ouais, il faut un peu de piquant, il faut un peu de... Alors en fait moi je travaille aussi dans l'animation pas mal et c'est vrai que je vois les productions ou ce lissage qu'on peut avoir pour raconter des histoires pour enfants, et moi ça me dérange, c'est quelque chose que je trouve un petit peu dommage.
Ouais.
Donc j'aime bien, justement, moi je prends les commandes d'une histoire, j'aime bien que ça soit en haut en couleur et que ça soit un peu les montagnes russes niveau émotion, quoi. On peut avoir de l'humour mêlé à de la tristesse, de la peur, de...
Voilà, on a le droit de mélanger les émotions.
Bah oui, la palette d'émotions est large, il faut l'utiliser et encore plus pour les enfants, quoi. Faut pas se mettre trop de barrières avec ça, je pense. Bah, après, dans les limites du politiquement correct, quoi.
Oui, quand même.
Mais
t'avais envie de ce contraste.
Ouais, et justement avec l'humour, il y a plein de moyens pour désamorcer un peu des situations piquantes et les faire passer toutes seules avec l'humour, quoi. Voilà, avec une petite phase de dialogue qui vient amener le sourire après un petit coup de choc.
Ok, donc l'humour pour parler de situations plus dramatiques. Et ben, je pense que ça va être globalement notre mot de la fin parce que vous savez quoi, c'est déjà fini.
Okay.
C'est passé vite, hein. Alors j'avais une toute petite dernière question quand même, pose là. On voulait savoir, nous, mais bon sang, il est où ce trèfle à quatre feuilles?
Quoi, tu l'as pas trouvé?
Bah non, on l'a pas trouvé.
Ah bah faut chercher, il y est.
Moi j'avais espoir, j'avais quelques enfants qui m'avaient dit tu demandes à pose là comment on trouve le trèfle. Tu veux pas dire? Bon,
ah bah, non,
tant pis alors,
sûr,
cher lecteur, faudra continuer à chercher. Merci beaucoup, donc Moni Paul pour Zoya, je le redis, tome 1, Que le grand cric me croque, et pose là pour L'homme qui court après sa chance, deux bandes dessinées en lice avec Bricole et Bestiole et Sandré Hazel pour la Tour d'Ivoire des Mômes. Vous pouvez encore voter pour les moins de 13 ans jusqu'à demain. Et je repasse le micro pour la transition à Rudy.
Bon festival. Salut.
Merci. Au revoir.
Merci.